播董端。
Bienvenue sur Mode d'emploi, le format secret de fabrication, tous les troisièmes vendredis de chaque mois sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Donc une émission animée par des collègues de l'inspection du travail et de Pôle emploi qui reçoivent des salariés, des syndicalistes, toutes personnes qui réfléchissent et luttent sur le lieu de travail pour nous faire part de leurs réflexions, de leurs luttes et de comment ils maintiennent la vie dans le monde impitoyable du travail. Alors, donc aujourd'hui, nous recevons Selma Régui.
Bonsoir.
Bonsoir Selma, qui va nous parler de certaines expériences que nous avons sur la santé au travail. Notamment, nous allons faire un premier retour sur les états généraux de la santé au travail qui se sont déroulés les 16 et 17 mars de cette année. Donc nous avions déjà fait une émission et nous avions promis de revenir sur ces états généraux parce que ils avaient été extrêmement riches et donc certains des aspects avaient dû être repoussé à plus tard. Nous y sommes. Donc nous allons parler notamment de l'expérience de la conférence gesticulée qui a eu lieu au moment des états généraux. Alors, la conférence gesticulée, c'est pour ça que donc j'ai invité Selma. Moi j'ai eu l'occasion d'être aux états généraux et donc nous attendions de pied ferme cette expérience. Et comment ça se déroule? Eh ben, nous étions tous sagement assis dans la grande salle Croisat, qui est cette merveilleuse salle de la Bourse du Travail. Et là, levée de rideau, une jeune femme assise à une table, téléphone à un interlocuteur inconnu et inaudible qui, d'après ce qu'on comprend assez rapidement, semble être une représentante des ressources humaines d'une société. Mais au moment où le dialogue se noue, les choses se passent pas exactement comme prévu parce que donc cette jeune femme, qui est Selma, donc discute avec son interlocuteur, mais en même temps, elle manipule une série de pancartes qui nous donne un sous-texte qui n'a pas grand-chose à voir avec la conversation parce que on s'aperçoit qu'elle ne croit pas un mot de ce que dit son interlocuteur et elle cherche à tout prix à nous faire comprendre que les choses n'ont pas l'air aussi simples que ça. Alors, de petit à petit, on s'aperçoit que Selma joue un rôle. Elle joue un rôle face à cet interlocuteur des RH. Mais quel peut bien être ce rôle? Et une fois que la conversation est terminée, on a compris qu'il y a eu un conflit, que ça s'est pas passé de manière, en fait, aussi évidente que ça. Selma reprend la parole et se présente. Et là, à toi Selma.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Pendant plus de 10 ans, j'ai été une L236-9, ça veut dire une consultante en santé au travail, mais d'un genre un peu particulier. Les employeurs ne m'aimaient pas. Ils ne m'aimaient pas parce que j'intervenais à la demande des syndicats, plus précisément des représentants du personnel au CHSCT, le comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail. Je passais mon temps dans les coulisses des entreprises, je faisais des enquêtes, ça s'appelle des expertises. Je disais des choses sur les conditions de travail. J'ai écrit des rapports, beaucoup de rapports, de gros rapports. Et avec tout ce que j'avais vu et entendu, j'ai éprouvé la nécessité de prendre une parole publique. Voilà comment je poursuis après la séquence des pancartes, parce que finalement, la conférence gesticulée, c'est une prise de parole publique, particulière. Je pourrais te dire après pourquoi je considère qu'elle est particulière.
Mmh. Effectivement, donc l'introduction que tu viens de faire là, c'est dans la continuité donc de ta première séquence, et ça montre bien que en fait tu n'es pas en train d'exposer quelque chose de manière doctrinale, scolaire, mais tu parles de ton expérience à la première personne, ça c'est très important. Et ça, je crois que ça a frappé l'auditoire que de se faire expliquer les choses par quelqu'un qui en fait raconte sa vie, raconte son expérience, voilà, et qui expose quelque chose d'assez compliqué en fait. C'est l'expertise CHSCT, c'est peu connu, c'est pas forcément quelque chose que les gens maîtrisent. Mmh. Et au lieu de faire tout un long blablabla sur justement l'article concerné de la loi, etc., on a effectivement une histoire de vie que tu déroules. Alors c'est intéressant parce que les réactions ont été très variées. Moi, j'ai eu l'occasion de circuler après pour demander un peu aux gens ce qu'ils en pensaient. Et on a une réaction que je voulais particulièrement que tu entendes, c'est celle de Claudia. Claudia est une étudiante en ressources humaines qui a décidé de plaquer les ressources humaines pour essayer de faire autre chose.
Elle a bien fait.
Voilà, oui. Et ben voilà, et elle était venue aux états généraux pour apprendre des choses, pour découvrir des choses justement sur la santé au travail qui lui semblait être une préoccupation extrêmement importante. Donc on écoute Claudia, c'est très bref sur ce qu'elle a pensé de la conférence gesticulée.
Alors parmi les expériences justement qu'il y a eu dans ces états généraux, il y a eu une conférence gesticulée. Mmh. Tu étais là, hein ?
Oui.
Oui. Comment t'as trouvé ?
C'était le soir de l'intervention des syndicats là, sur la loi El Khomri, donc j'étais déjà un peu... j'avais les épaules alourdies parce que je venais d'entendre et quand j'ai vu Selma, je me suis dit mince, à la fin finalement elle a arrêté, elle est plus experte. Et bon, c'est pour un autre projet, elle s'est engagée dans l'éducation populaire, mais je me suis dit si des gens aussi avertis arrêtent, est-ce que...
Mais est-ce qu'elle a arrêté ?
Je crois qu'elle a arrêté les expertises,
oui.
Et qu'elle elle continue dans une autre voie, dans ce que j'ai compris, dans l'éducation populaire. Ah. Bon, et ce que j'ai retenu quand même, c'est qu'elle disait que au lieu de faire des entretiens individuels, on peut peut-être faire des entretiens collectifs, et c'est là que la lutte peut prendre, quoi. Mmh. Mmh.
Donc, c'est avec ta permission, je vais lui transmettre ta question. Puisque, d'accord ?
Ah oui.
Et on verra comment elle voit ce que tu dis, qu'elle a arrêté l'expertise et comment est-ce qu'elle a fait autre chose aussi.
Voilà.
D'accord ?
Mmh.
Ça marche.
Merci.
Donc voilà, c'était rose promise, chose due. Non, ça c'est pas ça c'est l'autre. donc chose promise, chose due. Évidemment, je transmets la question et c'est intéressant parce que en même temps, bon, tout le monde a apprécié la conférence, mais là, on a un petit point particulier, c'est pourquoi avoir arrêté l'expertise pour faire la conférence ?
Alors, ma réponse va être brève. En deux temps, je l'ai arrêté parce que j'étais fatiguée. Mmh. J'ai pas su faire ce métier en prenant du recul. Et j'annonce à Claudia, si elle nous écoute, que j'ai décidé de reprendre ce métier.
Ah ah!
Sans
ça,
abandonner,
c'est un scoop.
Sans abandonner.
Scoop à l'antenne.
Donc, je retourne sur le terrain de la lutte frontale avec le patronat, mais sans abandonner l'éducation populaire.
D'accord. Bon, écoute, comme quoi, je crois que Claudia nous écoute en plus. Donc, on a la réponse à sa question. Donc, tu y retournes. Donc, tu retournes.
Absolument, je retourne au charbon.
Ouais, super. Mm. On va parler de charbon d'ailleurs bientôt. Mais alors, pour revenir sur la conférence gesticulée,
oui,
c'est intéressant.
Oui, je voulais t'en dire un mot, plusieurs, mais tu m'arrêtes quand tu veux.
Vas-y.
C'est une prise de parole particulière et je dirais qu'elle est subversive.
Ouais.
D'abord parce que elle subvertit la hiérarchie des savoirs. Le conférencier gesticulant ou la conférencière gesticulante, c'est qui ? C'est toi, ta voisine, ton voisin, c'est un citoyen. C'est un citoyen qui prend une parole publique alors même qu'il n'est pas légitimé par une instance universitaire. Il va prendre une parole publique pour dire « j'ai quelque chose d'intéressant à dire, je vais vous livrer un savoir élaboré à partir de mon expérience ». Et en faisant ça, il dit non à la hiérarchie des savoirs, il récuse l'idée qu'il n'y aurait que le savoir universitaire, le savoir expert qui vaille, et il revendique le fait que l'expérience est le gisement des savoirs. Mmh. Ça, c'est la première subversion, il me semble que c'est quelque chose de fort.
Et donc pour ça, tu casses volontairement la position d'expert.
Absolument.
Alors que tu te présentes comme une experte.
Absolument.
Par métier.
Absolument, et en plus, là c'est un double jeu, parce que je dis expert, parce que c'est comme ça qu'on est nommé par le Code du Travail, mais il y a un plaisir à le faire doublement. Une deuxième subversion, c'est que ce citoyen, il va monter sur une scène. de théâtre ou sur une scène.
Oui, j'avais parlé de levée de rideau, on est bien dans...
Exactement. Parfois, ça se produit dans d'autres lieux, mais il monte sur une scène. Finalement, il investit un espace scénique qui est éminemment non autorisé. Et en faisant ça, il fait quoi ? Il récuse l'idée que le théâtre, et plus généralement la création, soit la propriété privée de ceux qui ont décidé de définir ce qu'était légitimement le théâtre ou la création. Finalement, il montre, et pas en théorie, en acte, puisqu'il le fait, qu'il crée. Et que toute personne mise dans des conditions favorables à la création peut créer. Mmh. Deuxième subversion. Et elle n'est pas des moindres. Mais la troisième subversion, et je pense que c'est la plus importante, c'est que la conférence gesticulée fait de la politique une activité non spécialisée. Alors ça, j'ai mis du temps à le comprendre, parce que quand j'ai découvert la conférence gesticulée, je me représentais un homme ou une femme, une espèce d'ego sur scène, seul, qui livre une expérience dite personnelle, qui livre de l'intime, et donc je voyais pas bien ce que ça avait à voir, quelle dimension collective on pouvait voir à ça, où était le politique là-dedans. On accuse d'ailleurs, à tort ou à raison, c'est pas le sujet, mais que c'est un exercice narcissique, égocentré. Mmh. Mais je défends, et j'ai pu observer que c'était le cas, un autre usage de l'autobiographie qui n'est pas centré sur soi, mais un usage, je dirais, sociologique de l'autobiographie. Je pensais à Annie Ernaux en disant ça, c'est-à-dire que on va livrer une expérience personnelle, mais qui est inscrite dans une époque et dans une réalité sociale et qui en témoigne. Et là, déjà, on touche une dimension collective et politique, parce que finalement, et en livrant tous ces savoirs politiques utiles à l'action collective, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de fabriquer et de transmettre une culture de classe, et pas de la classe dominante, et en même temps, de contribuer modestement, mais de contribuer quand même à la sauvegarde de la mémoire de l'histoire de cette classe et de la mémoire des luttes.
Et oui, et donc on ne peut pas utiliser les modes de la classe dominante, c'est-à-dire justement l'expertise, la tour d'ivoire, toute la glorification effectivement du professoral hein, qui est à 500 mètres au-dessus du sol. Et c'est pour ça que moi ce que j'avais noté, c'est partout à chaque moment dans la conférence gesticulée, il y a des tranches de vie qui n'ont pas forcément de rapport avec l'expertise à proprement parler. Mais qui ont rapport avec toi.
Absolument. C'est un savoir élaboré à partir de son expérience, qui peut être soutenu par des théories, par des lectures universitaires, mais c'est d'abord un savoir élaboré à partir de l'expérience. Je livre ce que j'ai compris, ce que j'ai politiquement compris de l'endroit où j'étais. Mmh. L'endroit où j'étais, c'est mon histoire de vie, c'est mon histoire professionnelle.
Ouais. Et donc, on revient régulièrement, d'ailleurs au fur et à mesure la table se peuple de casques, moi j'avais noté, c'est ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu décris en fait une expertise au fur et à mesure, avec toutes les incises et tous les allers-retours, c'est-à-dire que c'est jamais continu, c'est jamais linéaire, mais petit à petit, on voit s'installer autour de la table une série de casques qui représentent en fait le moment où tu vas rendre ton expertise devant le CHSCT qui te l'a commandé.
Absolument, c'est la fin.
C'est la fin, oui, c'est ça.
C'est la fin, c'est-à-dire les deux heures avancent et finalement je pense que cette conférence gesticulée, elle parle bien sûr de souffrance au travail, de CHSCT, etc., mais elle parle surtout des rapports de domination et de la manière dont on peut les inverser.
C'est ça.
Mais je voulais, si je peux dire un autre mot sur pourquoi la conférence gesticulée est subversive et pourquoi on fabrique du politique par la conférence gesticulée. C'est que je vais prendre l'exemple d'un conférencier gesticulant qui vient témoigner d'une souffrance, par exemple d'une souffrance au travail. Mmh. Il ne va pas faire que témoigner des effets, expliquer à quel point il est mal. Ça ne va pas s'arrêter là. Il va faire quelque chose de central. Il va faire le lien entre des effets et des mécanismes, des effets et des causes structurelles. Mmh. Et c'est bien ce lien qui va permettre, en l'occurrence là, une remise en cause de l'organisation du travail, des modes de production capitalistes. Je veux dire, c'est pas seulement des témoignages, c'est cette mise en lien des effets et des causes qui fabriquent du politique.
Mais pour qu'on soit dans la logique de la conférence gesticulée, mettons qu'en théorie, cette personne vienne témoigner de son histoire, il faut qu'elle dise à tout moment comment ça se raccroche à son histoire. Moi, si j'ai suivi la logique,
absolument.
Voilà, comment ça se raccroche à son histoire personnelle,
absolument.
Et comment cette personne-là située hein, concrète, située, vit ce qu'elle est en train de décrire pour que la conférence gesticulée donne son plein potentiel, en fait. C'est ça, hein?
Absolument. D'accord. Comment ce qu'elle a éprouvé au fur et à mesure lui permet d'élaborer une analyse et de donner du sens à sa vie et à ce qui l'entoure.
D'accord. Alors, pour revenir à la question de Claudia, moi, si j'ai bien suivi, est-ce que tu dirais que le fait d'avoir fait ce détour par la conférence gesticulée, t'as, à un moment donné, tu as décidé de rompre avec le travail d'expertise, de faire ce détour par la conférence gesticulée. En fait, tu savais pas que c'était un détour à l'origine, puisque tu savais pas que forcément, tu n'avais pas prévu nécessairement de revenir à l'expertise.
Ah, mais j'avais commencé la conférence gesticulée alors même que j'exerçais le métier. Pour moi, ça avait un sens fort de prendre cette parole publique risquée alors même que j'étais encore experte.
D'accord. Et mais à l'inverse, est-ce que le fait d'avoir travaillé sur cette question-là, ça t'a permis d'acquérir un recul pour revenir encore plus forte?
Je pense que les patrons ont du souci à se faire.
Bien, parfait. Ah bah ça c'est parfait. Donc on va faire une première petite pause musicale, mais alors juste l'introduction, c'est pour dire que nous allons continuer à étudier la question de la santé au travail à travers d'autres biais que la conférence gesticulée. Je te remercie déjà pour cet exposé. Évidemment, le point de départ, c'est la vie des mineurs, et on va voir comment les choses ont beaucoup évolué depuis. Donc en avant pour la vie des mineurs. Voilà, c'était donc Sting qui nous chantait le désespoir des mineurs britanniques. Pourquoi j'ai choisi cette chanson ? Parce que en fait, on va voir dans la prochaine séquence comment, même si à l'époque où ces risques étaient les risques principaux du travail, on les prenait pas en compte, et aujourd'hui, alors que ces risques commencent à reculer un peu, on va dire dans la quantité d'exposition auxquels font face les salariés, on veut nous faire croire qu'il n'y a plus que ces risques-là, justement, et qu'une fois que ceux-là seront traités, il n'y a plus trop de problèmes. Et donc, j'ai eu l'occasion d'interviewer un collègue et ami, Jacques, qui nous parle donc de l'émergence des risques psychosociaux, des risques psychologiques au travail, comment le travail use aussi le mental, et surtout comment les dispositions actuelles cherchent à étouffer ce fait et à le passer sous silence.
Bonjour, donc Jacques, peux-tu te présenter ?
Jacques, militant syndical et inspecteur du travail.
Voilà. Donc on va parler un peu des choix politiques qui sont faits pour caractériser les risques du travail, et notamment les choix de privilégier certains risques au détriment d'autres. On va commencer par une jurisprudence extrêmement importante qui a été qui nous a éclairé sur des risques qui pouvaient avoir lieu dans les entreprises. Je veux parler de la jurisprudence Banque Populaire Caisse d'Épargne sur le benchmarking. Donc c'est quoi le benchmarking ?
Benchmarking, c'est la mise en concurrence des salariés entre eux, des équipes entre elles et à tout niveau, quoi. Sur des batteries d'indicateurs chiffrés exclusivement, sur des batteries, c'est ça qui est fondamental, c'est qu'on est toujours moins bon que le voisin d'à côté sur tel ou tel indicateur. Qu'on soit bon sur un indicateur, c'est pas intéressant. Ce qui est passionnant pour la direction, c'est qu'on soit moins bon, ce qui permet de mettre une pression permanente sur tout le monde dans une course sans fin au résultat. ce qui entraîne les salariés à violer complètement toutes les éthiques professionnelles.
D'accord. Donc, quel que soit le secteur, il y a forcément un indicateur où on sera moins bon. Donc, il faut se surveiller de partout, quoi.
Et chez nous aussi, inspection du travail, le benchmarking est mis en place, sans le dire, avec des multiples indicateurs. On dit, votre voisin dans tel département fait mieux que vous sur tel ou tel point en matière de droit du travail, où tout est aussi quantifié quant à ce qui concerne nos travaux.
On voit bien le potentiel, le caractère potentiellement dangereux de ces pratiques, puisque effectivement les salariés sont soumis à un stress permanent, ce qui a poussé le syndicat Sud Banque Populaire Caisse d'Épargne à traîner son employeur en justice. Et donc, coup sur coup, il a obtenu gain de cause dans deux jurisprudences. Donc, la première du tribunal de grande instance de Lyon en septembre 2011, qui condamne la pratique de benchmarking et demande à l'employeur de changer de pratique managériale, qui a été confirmée à la cour d'appel de Lyon le 21 février 2014. Et donc, à ce moment-là, on pourrait croire que la pratique du benchmarking est définitivement condamnée. Pourquoi ces deux arrêts successifs sont-ils aussi importants? Qu'est-ce qu'ils nous disent sur les risques au travail, en fait?
Ce qui est fondamental à retenir, d'abord, plusieurs syndicats sont montés au créneau sur des modes variables. Tous se sont battus contre ce système-là, mais au bout d'un certain temps, dire que moi qui avais le contrôle de cette boîte-là, j'ai pas entendu parler de benchmarking par les syndicats. Tout ce qui me remontait, c'était de la souffrance au travail, c'est-à-dire les conséquences d'un mode managérial dont on ne me parlait pas.
D'accord.
Et j'ai cherché longuement qu'est-ce qui était la cause de cette souffrance. J'ai longuement pataugé. Et c'est qu'au bout de plusieurs années de mise en place de systèmes que les syndicats parfaitement conscients de la dangerosité, de la nocivité de ce mode de management sont montés au créneau sud au civil et force ouvrière au pénal.
D'accord.
Alors ce qui a été décisif dans l'arrêt tout particulièrement de la cour d'appel, c'est que la décision s'appuie sur des dizaines de rapports de médecins du travail, puisque c'est une entreprise éclatée, bien sûr, avec un grand nombre d'agences, et que sur les 80 médecins du travail, à peu près, plus de 30 chaque année soulignaient l'état de souffrance vécu par les salariés.
Parce que, effectivement, quand on pense risque au travail, quand on pense que risque professionnel, évidemment, on a plutôt en tête l'image du salarié de la métallurgie ou de la chimie qui est exposé à des produits ou des processus dangereux. Mais en réalité, il y a des morts de la détresse psychologique au travail et du stress et de la pression psychologique sur le salarié. Tu as des chiffres là-dessus, je crois.
On n'a pas de chiffres fiables, bien entendu, sur les suicides, puisqu'on peut toujours discuter à l'infini de la causalité du suicide. Mais on estime aujourd'hui qu'environ il y a environ 400 suicides directement et essentiellement liés au travail.
Par an.
Grosso modo, pour donner des comparaisons, il y a 400 accidents mortels du travail en moyenne par an si on retire le risque routier qui en fait 150.
D'accord.
Ce qui ne veut pas dire que le risque routier échappe complètement aux responsabilités, enfin que les employeurs sont absolument pas responsables des accidents mortels dans le cadre du risque routier, la fatigue, les journées interminables, etc.
Mais on a 400 morts par accident du travail sur des sites de production, on va dire, pour faire vite. Là, c'est mort instantanée par accident. Et il y en a d'autres encore.
De toute manière, un mort, c'est quelqu'un qui ne survit pas 24 heures. Donc, si tu meurs 48 heures après, c'est considéré comme en France comme étant un accident très grave.
D'accord.
Et il y a aujourd'hui 400 morts découlant de maladies professionnelles reconnues.
Reconnues.
Hein, bon, on est plutôt, la réalité tourne plutôt autour de 1000-1200 morts découlant de maladies professionnelles. Mais les reconnaissances sont tellement difficiles à obtenir que le chiffre de véritable reconnaissance est 400. Mmh. Donc on voit aujourd'hui que la souffrance au travail pèse autant que les accidents du travail eux-mêmes et pèse autant que les maladies professionnelles.
Reconnu, d'accord. Donc effectivement, c'est un énorme enjeu. C'est pour ça que c'est d'où l'importance de ce type de jurisprudence qui condamne en fait un système managérial, qui condamne un choix managérial là pour le coup. Et c'est ça pour ça que cette jurisprudence a été considérée comme particulièrement affligeante par le patronat, on va dire. Hein.
Il y en a eu d'autres, mais celle-là est particulièrement marquante. Mmh.
Mmh. Et donc ça explique qu'aujourd'hui, puisqu'on va parler beaucoup de la loi El Khomri pendant cette émission, ça explique aujourd'hui que une des attaques principales de la loi El Khomri soit une attaque contre la médecine du travail. Il faut neutraliser absolument la médecine du travail qui porte un jugement sur les pratiques managériales.
C'est une évolution lente. Hein. Il y a déjà eu des remises en cause successives. Il ne se passe pas de loi aujourd'hui sur le droit du travail qui ne grignote les pouvoirs des médecins du travail et réduisent leur champ d'action. Mais aujourd'hui, très clairement, les médecins du travail sont recentrés sur le risque traditionnel industriel, point à la ligne.
D'accord. Donc on réduit les prérogatives du médecin du travail à surveiller, à la surveillance médicale spéciale, c'est ça en fait?
Le risque amiante, etc., les poussières de bois, etc.
D'accord.
Mais ça ne fait qu'accentuer le fait que le droit du travail ne s'occupe bien que des problèmes qui sont dépassés.
C'est ça.
Non pas parce que, comme on dit traditionnellement, le droit est en retard par rapport aux faits, mais simplement parce qu'il n'est pas question de légiférer sur le cœur même de la production.
Et qui aujourd'hui...
Qui est aujourd'hui le tertiaire. Donc il n'est pas question de légiférer sur les risques psychosociaux, comme il n'est pas question de réellement agir sur les troubles musculo-squelettiques qui représentent l'énorme masse des maladies professionnelles.
D'accord. Et donc avec la loi El Khomri aujourd'hui, la médecine du travail, réduite à sa plus simple expression, ne va plus s'occuper que, comme tu disais, des métiers à risque, en ignorant toutes les nouvelles dangerosités qui émergent de par les transformations économiques. Et pour l'avenir, ça va pas s'améliorer, quoi.
Ça va pas s'améliorer, bien sûr, puisque les médecins du travail sont de moins en moins nombreux par un choix cynique du gouvernement et du ministère de la Santé. Et ça va pas s'améliorer non plus du côté de l'inspection du travail, puisque de la même manière, l'inspection du travail est recentrée sur l'hygiène sécurité dans le sens le plus traditionnel du terme, c'est les risques de chute en hauteur, dans le bâtiment, les poussières d'amiante, etc.
D'accord. Le bâtiment, les métallos, la chimie, et puis après on s'arrête là. C'est ça?
Mais oui. Mmh.
Alors, de surcroît, alors ce n'est pas directement lié à ce stade à la loi El Khomri, il y a eu une ordonnance récente qui semblerait également que du côté de l'inspection du travail, on aille vers une dépénalisation de l'essentiel du droit du travail, y compris dans certains aspects, hygiène et sécurité. Tu peux nous en dire plus sur cette ordonnance?
Tout est à l'évidence lié, la réforme de l'inspection du travail, la réforme aujourd'hui qu'on vit avec la loi travail, dans tous ses aspects, réforme de la négociation collective, mais aussi suppression quasi totale de la médecine du travail. Mais hier, il y a eu, avec la loi Rebsamen, la mise à mort partielle des CHSCT.
Comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, dont on a beaucoup parlé dans cette émission, effectivement.
Donc, dans cet ensemble, une ordonnance est à signaler qui est sortie il y a un mois de ça, deux mois maintenant,
ouais,
qui, de facto, dépénalise le droit du travail, c'est-à-dire que les employeurs ne seront plus poursuivis devant les tribunaux correctionnel.
Qu'est-ce qu'on met à la place ?
Ce sera les directeurs régionaux des entreprises, puisque les directeurs régionaux du travail ont disparu, ont cédé la place aux directeurs régionaux des entreprises qui sont là pour la compétitivité des entreprises, qui sanctionneront par des amendes négociées avec les contrevenants, qui sanctionneront donc les manquements des employeurs.
C'est la fameuse transaction pénale en droit du travail qui a été introduite par l'ordonnance.
Les transactions pénales et les sanctions dites administratives.
C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui sera essentiellement dépénalisé? Si j'ai bien compris, il y a plusieurs ordres de choses. Tu peux donner des exemples, par exemple en termes de rémunération
Alors, du point de vue des sanctions administratives, c'est la durée de travail.
La durée du travail.
On ne la verra plus devant les tribunaux. Le SMIC, et à mon avis très clairement, parce que il y a une grande affaire sur le non-respect du SMIC par la grande distribution alimentaire, qui a fait la une des journaux. Les procès-verbaux des inspecteurs du travail ont fait la une des journaux. Et ce que craignent les grandes entreprises, c'est pas tellement les sanctions financières. Elles ont l'habitude de bien plus payer dans des redressements fiscaux ou dans des sanctions droit de la concurrence. Ce qu'elles craignent, c'est la publicité.
D'accord.
Et donc, l'avantage pour la grande entreprise des sanctions administratives, ça se fait entre quatre yeux, avec derrière le secret le plus total.
D'accord. Donc on sort les délits des entreprises, on sort les atteintes des entreprises, les atteintes jadis pénales, on les sort des tribunaux, du prétoire et de la publicité.
Mais c'est pas un hasard si le MEDEF n'a rien dit à la suite de la sortie de cette ordonnance, alors qu'il est question, soi-disant, de renforcer les pouvoirs de l'inspection du travail. Le silence du MEDEF est absolument éloquent.
D'accord. Donc, si je résume, on se retrouve avec une situation où des risques émergents et des risques qui montent en puissance, comme les risques psychosociaux, sont niés et repoussés dans l'ombre. Une partie des infractions des entreprises vont être traitées de manière discrétionnaire et purement administrative, et ne feront plus la une des journaux et ne permettront plus l'intervention des premiers intéressés, les salariés. Et la médecine du travail va être ramenée à une simple surveillance des risques les plus visibles et les risques à l'ancienne, on va dire, sans égard pour les risques émergents. C'est un peu ça le tableau qui est
pensé. Totalement.
Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie pour nous avoir éclairé sur ces risques et notamment la manière dont les pouvoirs publics les nient et les cachent. Merci Jacques et peut-être à bientôt pour une autre émission.
Merci bien.
Voilà, donc c'était l'interview de Jacques sur les risques émergents, les risques psychosociaux. Et sans transition, une illustration de ce propos, une illustration en live. Vous vous rappelez de Christian, donc notre ami de IBM, donc qui faisait face à une demande de licenciement, hein, une mise à pied pour son travail syndical. Et donc IBM cherchait à le virer, à le sanctionner pour son travail. Donc Christian est venu nous tenir au courant un peu de l'évolution de sa situation. Donc Christian, tu m'entends ?
Ouais, je t'entends, ouais.
Ouais, bah écoute, alors comment ça se déroule là ? Je crois que t'as quand même une relativement bonne nouvelle à nous annoncer, non ? C'est
voilà. Donc il y a une bonne nouvelle suivie d'une mauvaise.
Ok, bah commence par la bonne. Allez, essayez de nous remonter un peu le moral.
La bonne, c'est que l'inspection des Hauts-de-Seine a refusé le licenciement.
Voilà. Donc normalement, je t'arrête. Normalement, tu dois être réintégré. C'est ça, hein ?
Bah non, normalement la dispense d'activité devait être levée.
Ouais.
Hein, puisque mon syndicat le 8 juin a demandé d'une part que cesse le fait qu'on me donne un salaire et puis que je n'ai pas de travail.
C'est ça, qu'on te tienne à l'écart de l'entreprise.
Qu'on me tienne à l'écart de l'entreprise. Donc ils l'ont demandé en bonne et due forme, j'allais dire suite à la décision de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine.
Logique.
À la dire au DRH de l'entreprise, et logique, tout à fait, et en disant en plus que me présentant comme étant présenté comme un harceleur, il demandait en toute logique que je retrouve un métier dans mon expérience, et effectivement mon expérience et ma qualification, mais dans un autre service. Ça me semble évident, vu les griefs qu'on me reprochait pendant la durée, c'est-à-dire pendant l'enquête interne, où notamment, comme je l'ai dit à tout le monde, On m'a présenté effectivement comme un mec qui envoie des copains à lui casser la gueule à son chef.
C'est ça.
Hein, c'est-à-dire,
on était là et ça, ça a été rejeté. Ça a été rejeté par l'inspection du travail. On est d'accord. Hein,
voilà,
ça, ils ont dit niet.
C'était tout était ou très ancien ou carrément pas daté, si tu vois ce que je veux dire.
D'accord.
Donc la dénonciation calomnieuse faisant partie de cette fameuse enquête interne qui a été effectivement orchestrée dans mon dos. Mm. Est complètement à charge avec le manager en question.
D'accord. On avait vu ça la dernière fois. Donc la bonne nouvelle, c'était que l'inspection du travail n'a rien retenu.
Et que d'un autre côté, le 8 juin, quand on demande qu'on change de service et qu'on lève la dispense d'activité par rapport à cette décision qui est une grande victoire syndicale, on me dit qu'il y a un élément nouveau, que mes agissements me conduisent à un nouvel entretien préalable à licenciement, c'est la vérité, mes agissements, d'accord, et que cette fois-ci je suis plus en dispense d'activité, mais réellement en mise à pied conservatoire, c'est-à-dire que maintenant j'ai même plus de salaire.
Voilà.
Donc voilà l'acharnement des patrons voyous face même à une réalité qui est le refus d'un licenciement sur un dossier pourri.
Voilà.
Donc
il lâche pas l'affaire, quoi.
Je laisse les auditeurs apprécier de la situation.
Ouais, je comprends.
Donc moi, j'en suis même à rigoler, parce que là, si tu veux, c'est carrément, on n'est plus dans le surréalisme, mais dans quelque chose qui sort même...
Tu dirais que le DRH, il a la chance que le ridicule ne tue pas, c'est ça, en fait?
Mais c'est ce que je suis en train de te dire.
Ouais.
Alors, je simplifie l'affaire.
Ouais.
Le manager, parce que le ridicule ne tue pas, et qui n'a vraiment, effectivement... Aucun respect de lui-même.
Attends, le son est un peu mauvais. Non, je résume juste parce qu'il va falloir que je reprenne l'émission, Christian. Ils ont entamé le deuxième round d'entrée de jeu là, mais peut-être que juste une note d'espoir. Je pense que tu m'avais signalé lors de l'émission précédente que tu avais quand même un dossier sérieux de discrimination à leur balancer dans les dents.
Hein. Oui, oui.
Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc toi non plus, tu comptes pas en rester là.
Alors, de toute façon, je les trouve au tribunal en janvier prochain.
Voilà.
Et de toi à moi, Bob,
ouais.
je te le dis très sincèrement, ils avaient la possibilité, c'est pour ça que je pense que même cette phase-là, même en ne me payant pas pendant toute la durée d'un nouveau,
nouvelle procédure.
Une séquence de licenciement,
ouais.
Je pense que s'ils n'ont pas exercé leur droit de recours au ministère du Travail, ce qu'ils se disaient, la seule chose qu'on a, c'est d'essayer de dire qu'on a des faits nouveaux,
ouais.
Et qu'on relance toute mécanique en disant que ce qu'on avait dit avant est bien étayé par des choses qui sont fausses aujourd'hui.
D'accord,
voilà.
Ok. Bon, écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter bon courage. T'es une bonne illustration de ce qu'on vient de dire sur les risques psychosociaux au travail. Je pense que c'est assez clair. Je te remercie pour ton témoignage. On te souhaite bon courage, hein, et on se tiendra informé des suites. Ça marche ? Bon courage à toi, Christian. À bientôt.
Bye.
Voilà, donc c'est une illustration, effectivement. Les syndicalistes dérangent, les patrons prennent des moyens exorbitants pour se débarrasser d'eux, et évidemment la barrière que constitue l'inspection du travail est attaquée frontalement, comme on a vu avec l'interview de Jacques. Bon, alors effectivement, pour illustrer un peu les risques psychosociaux et notamment la grande peine qu'on a le lundi quand on arrive au bureau et qu'on va faire face à cette bande de voilà. Hein. J'ai un devoir de réserve. Ah oui, j'avais oublié. C'est que on se retrouve à déprimer le lundi matin. Et la chanson donc que nous allons passer tout de suite. La chanson que nous allons passer tout de suite, c'est donc une illustration de ces lundis difficiles.
Regarde ta montre, il est déjà 8 heures, embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon...
C'est pareil, c'est quand on est...
Donc c'était le lundi au soleil, et oui, le petit blues qui nous saisit quand on retourne dans le bureau, c'est comme ça. Mais voilà, donc nous sommes face à tous ces problèmes de risques contre la santé au travail,
Et donc, je repasse la parole à Selma, qui, je crois, veut réagir sur un certain nombre de choses qui ont été dites lors de ces deux séquences.
Oui, au moins sur une, j'entends, on dit risques psychosociaux. Il faut arrêter avec ça. Il faut pas appeler. C'est important les mots, parce qu'il y a des mots qui sont là pour nous empêcher de penser et d'agir d'une certaine manière. On dit par exemple risque chimique en parlant par exemple de l'amiante, d'accord. Les dangers de l'amiante étaient connus par les industriels dès la fin du 19e siècle. Qu'est-ce que je raconte ? Dès l'Antiquité, on connaissait les dangers de l'amiante.
On a fait une émission, effectivement.
D'accord ? On appelle ça risque chimique. Pourquoi on n'appelle pas ça risque lié au profit ? Quand des ouvriers ont des accidents du travail dans l'atelier, quand ils travaillent devant des machines-outils, on appelle ça risque lié aux équipements. Mais en même temps, s'ils ont des accidents du travail, c'est peut-être parce que la cadence a augmenté, qu'ils n'ont plus les marges de manœuvre pour déployer des savoir-faire de prudence, mais on n'appelle pas ça risque lié à l'intensification du travail. Quand il y a une recrudescence des accidents de la route, Jacques en parlait en disant à juste titre que c'est pouvait être lié à l'organisation du travail. On appelle ça risque lié au déplacement. Mais si ils conduisent vite et ils ont des accidents, c'est peut-être parce qu'ils ont des objectifs intenables et qu'ils sont obligés de rouler vite pour visiter le maximum de clients. On n'appelle pas ça risque lié aux objectifs. C'est important le choix des mots. Appelons ça des risques organisationnels au lieu d'appeler ça des risques psychosociaux.
Donc voilà.
Enfin, je m'énerve, mais je devrais
non,
pas.
Non, c'est
je
très bien. Pas. C'est très bien. Donc on a dit risque de profit, risque lié
risque
au profit.
Organisationnel.
Risque organisationnel.
Faisons entendre les causes. Faisons entendre les causes.
Mise en danger managériale.
Fabriquons du politique déjà dans le langage, en faisant le lien entre les conséquences et les causes extérieures aux individus et qui remettent en cause le système.
Ouais. Alors justement, ça nous permet d'introduire la suite, c'est-à-dire qu'il y a une phase en ce moment de libération du langage. Il y a un lieu d'ailleurs où le langage se libère en ce moment de manière importante. Il y a des lieux même d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup. C'est les Nuits debout. Effectivement, dès l'émergence de Nuit debout, beaucoup de syndicalistes ou de gens qui traitent du travail ont voulu essayer de voir comment ils pouvaient apporter ce bagage-là à Nuit debout, comment ils pouvaient participer à Nuit debout depuis leur expérience. Hein. Et donc, ça a donné un certain nombre de commissions ou d'ateliers dans lesquels interviennent diverses personnes. Et donc, toi, tu as une expérience de ça. Hein.
Oui, moi, je peux témoigner de mon expérience personnelle. Je me suis réveillée un samedi, mais ça s'est vraiment passé comme ça, je sais plus, début, mi-avril. Moi, je me définis comme une militante pour la santé au travail en me disant, dans un moment d'inconscience, je vais aller à Nuit debout pour contribuer modestement, encore une fois, mais assurément, à faire en sorte que la question de la santé au travail prenne toute sa place dans ce mouvement, et la question du travail. Parce que c'est bien sur le terrain de la santé au travail, à mon sens, que se joue l'exploitation, non seulement des corps, mais de la subjectivité. Ça ne veut pas dire que cette question n'était pas présente, mais je voulais contribuer à ce qu'elle le soit davantage. Donc, mon urgence, mon envie, je ne sais pas comment l'appeler, a rencontré celle d'autres. Et collectivement, on a organisé une première journée qui voulait donner toute sa place au travail, à la santé au travail. C'était le 30 avril, avec une grosse conférence débat sur cette question et en parallèle des ateliers. Et très vite après, on a eu envie de pérenniser ça et on a créé le groupe travail qui est rattaché à la commission économie politique et c'était un choix. On ne voulait pas dissocier les questions dites macro d'emploi et les questions dites micro, celles du travail, bien au contraire, de voir comment on pouvait travailler cette articulation, cette tension. Donc un groupe travail qui s'est monté avec deux ateliers par semaine.
D'accord. Donne-nous un peu c'est quand les rendez-vous sont
Alors les rendez-vous, c'est tous les jeudis à 18h30, ça dure 2 heures, et tous les samedis à 17h. On a commencé le 21 mai. À chaque fois un thème prétexte, parce que les discussions peuvent largement le déborder. Alors on a déjà travaillé sur la résistance au langage managérial, sur les conditions de travail des fonctionnaires, sur la médecine du travail. D'autres thèmes sont prévus, par exemple je t'invite et j'invite tout le monde à venir ce samedi où il sera question des femmes au travail.
D'accord. Samedi 17h.
samedi à 17h. Le jeudi suivant, on fera un atelier sur l'inspection du travail entre représentation et réalité. Mm-hmm. Et puis un rendez-vous que j'attends particulièrement le samedi 25 juin à 17h sur le syndicat, sur le syndicalisme.
Mm-hmm.
Est-ce qu'on en attend? Où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on est en droit d'en attendre? Donc un groupe travail qui a posé comme visée de libérer la parole sur ce qui est vécu au travail. De finalement de partager collectivement des connaissances et des savoir-faire pour se défendre, hein, pour résister à la domination dans les lieux de travail, qui s'est fixé aussi pour viser, je disais, l'importance des mots de déconstruire et de résister à l'idéologie patronale, notamment au langage managérial. Et puis un groupe travail qui veut susciter, nourrir la réflexion et le débat contradictoire sur les problématiques du travail et de la santé au travail, avec à chaque fois une volonté de montrer en quoi la loi travail peut avoir des conséquences catastrophiques sur les conditions de travail et donc la santé au travail. Avec une orientation, on fait tout pour que ce soit horizontal. Il y a un animateur, mais l'idée c'est qu'il vienne pas en sachant nous faire un cours, mais qu'il crée les conditions favorables à ce que les citoyens s'expriment et expriment une expertise citoyenne.
D'accord. Ça veut dire qu'une seule chose, tu sais quoi?
Non.
Que je vais te réinviter. Parce que, en fait, ce que tu nous décris là, c'est, alors, en le disant sans le dire, c'est un peu le but de l'émission mensuelle, quoi. C'est-à-dire que nous aussi, on est en train de chercher, on cherche à chaque fois à voir comment on résiste et on crée et on garde sa tête et on garde sa volonté et ses désirs, y compris dans un milieu extrêmement contraint qu'est le travail, où on est soumis à toutes sortes de pressions, toutes sortes de risques d'organisation, de risques de profit, de risques d'objectifs, comme tu dis, et comment on peut refuser ça, jouer avec ça, contrer ça. Et donc, je pense qu'on est parfaitement raccord et que donc...
Tu vois, ça, c'est pas simple. Par exemple, j'ai pu observer une chose, mais même avant, quand je faisais de l'expertise et que je vais refaire, c'est qu'on a tous une propension à parler des problèmes.
Oui.
Et là, c'est central, la manière dont tu vas interroger les gens. On a tous tendance à leur demander, mais quels sont les problèmes au travail? Et ce faisant, les maintenir dans une position de victime. C'est tout autre chose en leur demandant, à l'inverse, par exemple, de faire des récits de situations de travail où ils ont pu attraper des marges de manœuvre, faire un travail qu'ils considèrent utile, bien fait, selon leurs normes de métier et pas les normes managériales. Et là, tu leur demandes après, qu'est-ce qui a empêché que ces situations ne se reproduisent pas? Et donc, tu mets les gens plutôt dans des dispositions à l'action et à la réflexion à comment agrandir ces marges de manœuvre et s'en saisir collectivement.
Tout à fait.
On essaye de le faire dans les ateliers, c'est-à-dire non pas s'arrêter à un diagnostic, mais d'essayer d'engager, d'amorcer des actions et des actions collectives.
Du côté de la vie.
Oui.
C'est ça. Résolument du côté de la vie.
Oui.
Ben, on est d'accord. Ça marche. Ben, l'émission touche à sa fin, donc est-ce que tu veux dire un dernier mot, peut-être réagir sur quelque chose que tu avais pas, que tu avais laissé passer dans les interventions.
Écoute, non, j'avais envie, mais c'était trop tard quand tu avais passé la première musique. J'avais associé à 1906 la catastrophe de Courrières et puis le code du travail qui vient quelques années après en 1910 et c'est. Ça me paraissait être un choix complètement de circonstance. J'ai moins compris Claude François, mais en même temps, tu as raison. Les lundis sont pas souvent au soleil ces derniers temps.
N'est-ce pas? Oui, alors là, en plus, météorologiquement, c'est fondé. Comme quoi, tu vois, j'ai bien choisi. Bon, ben voilà. On peut dire qu'on a fait un bon tour, là, de toute une série de manières de voir les choses. Je pense que c'était quand même un peu décalé, d'où aussi le Claude François pour revenir là-dessus. C'est, il faut décaler son regard, il faut décaler sa posture, faire des choses inattendues comme des conférences gesticulées ou comme la participation.
Je t'invite à en faire une d'ailleurs.
Je sais, c'est pas d'hier que tu m'as dit ça. Donc je sais toujours dans les cartes. Je vais attendre la fin du mouvement Nuit Debout si ça te dérange pas, parce que le problème c'est que là je suis un peu occupé, je vais t'avouer. C'est quelque chose qui est très très motivant.
Mais le temps on ne l'a jamais. Il s'arrache. s'arrache.
Il s'arrache, ouais, je sais, d'accord, ok, tout ce que tu veux, mais ça demande un petit peu de temps arraché déjà pour aller à Nuit Debout. Je peux pas l'arracher dans toutes les directions, d'accord. Donc franchement, et ça vaut le coup tant que ça dure d'y aller. Hein, ça, on peut tous les deux le confirmer, je pense.
Absolument.
Voilà, absolument. C'est encore vivant. Il y a encore du monde sur la place de la République.
Venez, c'est un espace exceptionnel, précieux. Ne manquez pas ça.
Venez à Nuit Debout. Venez dire votre révolte, votre lutte, vos espoirs à Nuit Debout et construire là-dessus avec d'autres parce que ça vaut vraiment le coup. Profitons-en encore tant que ça dure. Voilà, c'est le fin mot de cette émission.
Comité réduit, foule immense, qui ce soir de votre présence me faites le don et l'amitié. Vous qui ne cédez votre oreille et quelque argent de votre paye, que merci, vous m'avez gardé. Combien de sueurs, de souffrances.